À l'approche du déconfinement prévu le lundi 11 mai, nous sommes avec le docteur Alain Perret, le chef des urgences du centre hospitalier de Narbonne et président de la commission médicale d'établissement, pour faire le point au sein du centre hospitalier de Narbonne. Bonjour.
Bonjour.
Depuis plusieurs semaines, nous sommes sur un haut plateau. La situation a-t-elle évolué aux urgences dédiées au Covid-19?
Oui, on va dire une petite baisse qui s'est mise en place encore. Hein. On était sur une activité, on va dire, de moyenne intensité et on est en train de glisser doucement vers ce qu'on pourrait appeler une basse intensité avec juste une à deux hospitalisations par jour de patients étiquetés Covid.
Combien de personnes avez-vous en réanimation actuellement?
Alors, actuellement, on n'en a plus que trois, donc qu'une qui est assez gravement atteinte, en sachant bien entendu qu'à partir du moment où vous êtes en réanimation, c'est que vous avez une forme sévère, hein,
mais on est plus que les autres,
les chiffres qui sont les plus bas depuis le début de la crise. Hein.
Et en termes d'hospitalisation Covid-19?
Une quinzaine de patients.
Alain Perret, la semaine dernière, nous avions évoqué brièvement la création d'un hôpital provisoire pour assurer les consultations sur le plan Saint-Paul à Narbonne. Le maire de Narbonne, Didier Mouillet, a confirmé sur Grand Sud FM que les autorisations sont accordées, donc le projet suit son cours. Sur le plan médical, comment cela va-t-il se passer?
Oui, alors il y a eu beaucoup de réactions à ce projet, hein, voire parfois une légère opposition. Alors je voulais juste rappeler qu'en fait on ne crée rien, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit juste de déporter une activité qui est déjà existante à l'hôpital de Narbonne, hein, qui sont les consultations externes. Hein, l'hôpital, alors, contrairement à l'image qu'on peut en avoir, c'est pas que des urgences, un bloc opératoire, une hospitalisation. Il y a aussi au quotidien une activité de consultation, hein, spécialisée. En diabétologie, par exemple, ou en neurologie, ou en orthopédie. Et il y a chaque jour, dans une journée normale de l'hôpital de Narbonne, il y a 600 personnes qui se présentent pour faire juste une consultation, un avis spécialisé. C'est-à-dire cette activité spécialisée de consultation spécialisée qui a disparu avec le Covid, en fait, hein, puisque l'hôpital a été fermé. Donc on a supprimé ces 600 consultations par jour de médecine spécialisée. Et c'est ces consultations qu'on aimerait remettre en place parce qu'il y a beaucoup de patients qui ont des pathologies chroniques, hein, je pense aux diabétiques, aux maladies de Parkinson, enfin il y a plein de maladies chroniques qui nécessitent un avis spécialisé régulier. Et cet avis spécialisé n'a malheureusement pas pu être rendu. Il y a eu bien entendu quelques téléconsultations, mais bon, la téléconsultation, ça remplace pas l'expertise de la visite médicale, hein, bien entendu. Donc voilà, il n'y a pas de malentendu sur ce que l'hôpital veut faire, il veut juste reprendre son activité habituelle et donner cette expertise sur ces domaines-là. Voilà. Et pour le faire, on a besoin de mètres carrés supplémentaires, tout simplement parce que les réseaux dits Covid, une partie des urgences, une partie du troisième étage de l'hôpital de Narbonne a été fermée et réservée à la maladie Covid parce que ça demande un isolement des patients, un isolement des personnels avec une tenue particulière et que c'est très consommateur en termes de mètres carrés. Et que si aujourd'hui on voulait reprendre une activité, j'allais dire, standard de l'hôpital, eh ben ça serait impossible parce qu'il nous manque de la place, quoi. Donc le projet sur le plan Saint-Paul, c'est pas du tout une extension de l'hôpital, hein, c'est simplement une remise à zéro des compteurs en termes de mètres carrés, de manière à ce qu'on puisse reprendre cette activité qui est absolument nécessaire pour les patients du Narbonnais, quoi.
Et quand ouvrira-t-il?
Il y a des problématiques de sécurité, hein. Je crois que la commission des sapeurs-pompiers doit se prononcer sur la faisabilité. Enfin, il y a des avis préfectoraux, je crois, mais bon, c'est plutôt bien engagé. On voudrait faire quelque chose qui soit pas non plus qui ressemble à des cabanes de chantier, donc qui soit fait en bois, quelque chose qui soit peut-être un petit peu cohérent en termes de gestion des espaces. Hein. On sait que pendant les plusieurs semaines ou plusieurs mois. Il va falloir que les consultations soient distanciées, hein, que les gens soient pas entassés dans une salle d'attente, hein, avec de l'espace, etc. Donc, d'après ce que j'ai cru comprendre, et je suis vraiment pas expert dans le domaine, il faudrait 2 mois pour construire cette structure provisoire. Dans le courant de l'été, elle soit fonctionnelle et qu'on puisse reprendre une activité donc de consultation spécialisée à activité normale, en fait. Hein.
Et les travaux commenceraient quand?
Il y a une réunion préparatoire technique qui se fait la semaine prochaine pour évaluer les différents réseaux, hein, parce qu'évidemment il faut que ce soit relié sanitaire, eau, électricité, puis aussi à la fibre optique, hein, parce que maintenant tous les dossiers sont informatisés, donc il faut qu'on ait un accès au web qui soit très très efficace, hein, parce que quand vous avez 20 ou 30 médecins qui consultent en même temps, il y a besoin d'actualisation des données qui soient quasi instantanées. Donc il y a des impératifs techniques, mais les commissions d'évaluation technique commencent la semaine prochaine, a priori.
Alain Perry, il semble qu'on soit en train de découvrir que le Covid-19 pourrait toucher les enfants d'une manière particulière. En tant que chef des urgences Covid-19 à Narbonne, savez-vous si un tel constat a été fait à Narbonne ou bien dans le département audois ?
Non, ça n'a pas été fait à Narbonne. Alors, il faut faire attention quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sortent,
circulent, hein,
qui
ouais.
sont très anxiogènes, surtout quand on parle des enfants. Hein, voilà. Donc, le syndrome en question, c'est ce qu'on appelle la maladie de Kawasaki, qui est une maladie qui est connue en fait. Hein, c'est pas quelque chose de complètement inconnu. C'est un syndrome inflammatoire assez grave, effectivement, mais qui est provoqué pour des raisons qu'on ignore par toutes les maladies virales. Hein, c'est-à-dire, vous pouvez faire une maladie de Kawasaki au décours d'un rhume ou au décours d'une bronchite simple hein, chez les enfants, plutôt avant 8 ans. C'est une grosse réaction inflammatoire inappropriée à une agression virale. Alors il semblerait que dans le cadre du Covid, il y ait aussi, on puisse rencontrer des maladies de Kawasaki. La prévalence est le nombre de cas qu'on a par an, et déjà de plusieurs centaines en France tous les ans, hein, sur d'autres maladies virales. Et il semblerait que le Covid puisse favoriser la maladie de Kawasaki. C'est pas forcément une surprise, hein, parce qu'on sait que toutes les maladies virales peuvent le provoquer. Jusqu'à présent, il y a eu des cas essentiellement en région parisienne et dans les grandes agglomérations, puisque c'est les hôpitaux de Londres hein, qui ont lancé le signal. Donc on reste quand même sur quelque chose qui est effectivement sérieux, mais qui n'est pas propre au Covid et qui est surtout lié à l'intensité de la pénétration du virus. Hein, c'est-à-dire que quand on a une grosse activité virale, ça arrive pendant les épidémies de grippe ou les épidémies de gastro-entérite, on voit apparaître des syndromes de Kawasaki déjà. À Narbonne, moi dans ma carrière, j'en ai rencontré qu'une seule fois un syndrome de Kawasaki. Ça reste aussi quelque chose qui n'est pas extrêmement fréquent, mais c'est pas quelque chose qui est complètement inconnu. Hein, donc voilà. Donc il faut être prudent, il faut regarder un petit peu les chiffres, il faut voir si ça se superpose pas aux chiffres habituels de maladies de Kawasaki. Pour l'instant, on n'en a pas observé, on n'a pas eu de forme grave chez l'enfant. Hein, on a eu quelques suspicions qu'on a hospitalisées, mais qui se sont révélées négatives, parce que tout simplement, on était aussi dans une période d'épidémie d'autres viroses qui touchent l'enfant, hein, je pense notamment au VRS, hein, qui est le virus qui donne la bronchiolite chez les enfants, en janvier, février, mars, ce sont des périodes d'épidémie pour ces virus-là, et au début de l'épidémie, on a eu des formes respiratoires, mais qui étaient finalement plus en rapport avec le VRS qu'avec le Covid, donc ici à Narbonne, on n'a jamais observé d'enfants Covid qui étaient en situation, j'allais dire, difficile. Hein. Il y a eu des enfants testés positifs, assez peu. On n'a pas eu de cas sévères d'enfants Covid.
Où en est l'essai démonstratif Covidoc qui compare les effets de l'hydroxychloroquine seule et l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine ?
Le protocole suit son cours, hein. Il faut un nombre minimal de cas hein, pour que ce soit significatif. Hein. C'est la problématique des statistiques. Hein. Si vous les faites sur des petits nombres, ça n'a pas de valeur. C'est des protocoles qui sont assez complexes en fait, hein, parce que donc il y a effectivement les deux bras, hein, c'est-à-dire il y a un bras qui reçoit l'hydroxychloroquine et l'autre qui reçoit l'hydroxychloroquine plus l'antibiotique. Et les deux bras sont dits en double aveugle, c'est-à-dire que ni le médecin ni le patient ne savent quel est le médicament qui a été donné. Et ça demande aussi beaucoup de contrôle, hein, c'est-à-dire qu'on fait pas mal de dosages, des scanners de contrôle, des bilans hépatiques ou rénaux, c'est-à-dire qu'il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'inconvénients, que ça ne provoque pas des effets indésirables sévères ou des choses comme ça. Donc c'est des choses qui prennent du temps, bien entendu. Ce qui est certain, c'est que quand il y a des résultats spectaculaires, en général, il y a des publications à mi-étude, et pour l'instant on n'a pas vu venir de publication à mi-étude, donc on peut penser qu'il n'y a pas eu de résultats spectaculaires, donc voilà, l'essai suit son cours.
Et globalement, où en sont les traitements à l'étude contre le Covid-19 ?
Alors c'est une question qui est extrêmement polémique, hein, on l'a vu, malheureusement il y a beaucoup d'études qui sont sorties, hein, avec beaucoup de médicaments qui ont été testés, hein, la désormais célèbre chloroquine, mais aussi tous les antiviraux, hein, le remdesivir qui était le dernier antiviral qui avait pas eu pour lequel on avait des espoirs, et, enfin en deux mots, hein, pas un seul mot.
C'est ça.
Et malheureusement, il semblerait que même le remdesivir n'a pas d'effet vraiment spectaculaire sur le virus du Covid en fait, hein. Mais on est un petit peu toujours confronté à cet échec de la médecine thérapeutique invasive sur les pathologies virales. On avait eu la même problématique avec le H1N1 en 2009. Ce qui est certain, c'est que Aujourd'hui, je pense qu'il faut renoncer à l'idée de trouver un médicament qui soit spectaculairement efficace contre le Covid-19. Il y aura possiblement des médicaments, on l'a vu avec certains anti-inflammatoires utilisés dans la polyarthrite rhumatoïde, sur les études parisiennes. Il y a probablement des médicaments qui montreront une efficacité, mais il y aura pas, malheureusement, de médicaments miracles qui régleraient le problème.
Eh bien, merci Alain Perret d'avoir été avec nous sur Grand Sud FM. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes le chef des urgences du centre hospitalier de Narbonne ainsi que le président de la commission médicale d'établissement. Et nous venons de faire le point sur la situation au centre hospitalier de Narbonne.
Merci beaucoup, bonne journée.